Bonsoir, comment allez-vous ? La voiture est un drôle de lieu, ni vraiment dehors, ni vraiment dedans. Plutôt confortable, on s'y abandonne volontiers. Je ne m'étendrai pas sur le syndrome du doigt dans le nez à l'heure du dîner. Le fouilleur, se croyant seul, prospecte, envoie l'index, tournicote, puis ramène sa prise, qu'il regarde avec une certaine satisfaction. Il oublie juste que ses vitres, aussi propres que son nez fraîchement curé, sont transparentes. Moins dégoûtant, mais plus violent, le regard que jettent tous les habitants de l'habitacle d'une auto au moment où elle arrive enfin à doubler cette autre qui se traîne à 53 km/h sur l'autoroute. C'est assez déchirant, presque indécent. Tous ces yeux rivés sur un malheureux papy arc-bouté sur son volant, faisant hurler son moteur, vibrer sa carrosserie, car il n'a toujours pas trouvé la troisième. Mes parents, qui ne rataient jamais une occasion de s'engueuler, avaient un bon terrain de jeu avec les vitres de la voiture. Il était reproché à ma mère d'obstruer la vitre arrière avec son paquet. On peut se demander quel est le paquet coupable, celui du bas qui fait monter la pile ou celui du haut qui barre la vue. Je précise que loger 5 enfants et un chien dans une 2 chevaux en laissant les vitres bien dégagées demande un peu d'organisation. Ensuite venait la discussion du pare-brise. Ma mère, encore elle, essuyait le pare-brise avec ses doigts pour enlever la buée. Et les doigts sur une vitre, ça laisse des traces. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi un homme, pas un humain, un homme, un mâle, arrive à vivre dans un logement sans y faire le ménage pendant 5 ans et crise pour une trace de doigt sur un pare-brise.
La sécurité, madame, la sécurité.
Ah mais oui, bien sûr que je suis sotte.
Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir en quels matériaux sont faites les vitres de la voiture. Merci, au revoir.
Bonsoir Flora, c'est votre spécialité, David Louapre. Vous êtes chercheur en physique et vulgarisateur scientifique. Vous vous intéressez entre autres au verre. Vous avez écrit 2 livres chez Flammarion. Le dernier, c'est Insoluble mais vrai. Et vous avez également une chaîne YouTube Science Étonnante. Alors, elle demande, Flora, en quels matériaux sont faites les vitres de la voiture?
Eh bien Flora, tu as peut-être remarqué que si tu poses la main sur la vitre, tu ressens à peu près la même sensation que celle que tu as quand tu poses la main sur une fenêtre. Et en fait, les vitres des voitures sont, dans la quasi-totalité des cas, faites dans le même matériau que celui des fenêtres, c'est-à-dire du verre. Donc le verre, c'est un matériau un petit peu particulier hein, qu'on fabrique en fait en faisant fondre du sable, hein, plus quelques autres petits éléments qu'on ajoute. Donc on fait chauffer du sable, on le fait fondre, et puis on le refroidit. Alors il faut le refroidir suffisamment rapidement pour obtenir du verre. Et le verre, c'est un matériau qui est assez étonnant parce que on part de matières qui sont un peu sales, hein, du sable, et puis on arrive à quelque chose de très transparent, très pur, du verre. Et la raison de ce petit miracle, c'est que, en fait, le verre, quand on le touche, il a l'air solide. Mais si on regarde, par exemple, au microscope, ou en tout cas avec des instruments plus poussés qui permettent de voir sa structure, on se rend compte qu'il n'est pas fait comme les autres matériaux solides. Les autres matériaux solides sont ce qu'on appelle des cristaux. C'est vrai, par exemple, des métaux ou des roches qu'on peut trouver. Un cristal, ça veut dire que les atomes sont arrangés de manière très très régulière, un peu comme sur une grille en 3 dimensions. Les atomes sont disposés de façon très très régulière, c'est ce qu'on appelle un cristal. Et en fait, le verre, ça n'est pas cette configuration-là. Les atomes sont arrangés de façon complètement désordonnée. Les atomes sont rangés de façon désordonnée, tels qu'on les trouverait dans un liquide. Et c'est ce qui fait dire parfois que, en fait, le verre n'est pas vraiment un solide, c'est comme un liquide qui serait très 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 visqueux. C'est-à-dire qu'on l'aurait refroidi, il serait devenu tellement visqueux qu'il ne peut plus bouger, mais du point de vue de sa structure, il ressemble plutôt à un liquide. Alors, il y a une petite histoire qu'on raconte à ce sujet qui, en fait, est une légende urbaine, mais on dit que quand on regarde des vitraux, on voit qu'à la base des vitraux, il y a un petit renflement que certaines personnes, à une époque, ont imaginé être le fait que le verre avait coulé à l'échelle de plusieurs siècles. Alors, en fait, ce n'est pas vrai parce que le verre est tellement visqueux qu'il ne faudrait pas des siècles pour que ça coule, il faudrait plutôt des dizaines de millénaires. Donc, le verre, c'est un matériau qu'on utilise aujourd'hui pour tout un tas de choses, hein, pour faire des vitres de voiture. Donc, pour faire des fenêtres, pour faire des bouteilles, et puis aussi pour des applications un peu plus technologiques, par exemple pour faire des fibres de verre qui permettent de renforcer les matériaux, jusqu'à des matériaux encore plus technologiques, comme par exemple le verre que vous pouvez trouver sur certains téléphones portables ou certaines tablettes, qui est un verre très particulier parce qu'il est à la fois très très mince et relativement résistant. Alors une chose qu'il faut savoir sur le verre, c'est que suivant l'application, sa composition change légèrement. C'est-à-dire pour le fabriquer, on ne va pas mettre tout à fait les mêmes ingrédients, même si c'est toujours un peu la même base, et notamment on peut jouer sur la couleur. Et c'est une chose qu'on utilise justement beaucoup pour les vitres des voitures, puisque si vous regardez attentivement, les vitres des voitures sont pas complètement blanches. Elles
sont
toujours teintées, voilà, plus ou moins teintées. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permet d'éviter qu'il y ait trop de chaleur du soleil qui rentre dans la voiture, et donc d'éviter d'avoir besoin de mettre la climatisation à fond.
Et dernière chose, les verres des voitures, ils ont fait des progrès. Autrefois, ils étaient beaucoup plus tranchants quand ils se cassaient, par exemple. Ils se cassaient différemment avec des gros morceaux.
Oui, alors il y a deux choses importantes à comprendre sur la manière dont se cassent les verres des voitures. C'est que, évidemment, on a besoin de protéger les passagers. Et en fait, ils se cassent de deux manières différentes. Si vous regardez les verres qui sont plutôt sur les portes, sur les vitres latérales, ils vont se casser en tout petits morceaux. C'est un peu la façon de se casser qu'on a dans les abribus aussi, si vous voyez les abribus cassés.
Hélas, oui.
Et pour obtenir ça, en fait, on refroidit le verre très, très rapidement, c'est ce qu'on appelle la trempe. C'est quelque chose qu'on fait aussi avec de l'acier pour le renforcer. C'est
acier trempé.
Absolument, l'acier trempé. Donc quand on voit des fois dans les films historiques l'épée qui est forgée et qui est ensuite plongée dans un seau d'eau, c'est pour tremper l'acier, le rendre plus résistant. On fait la même chose sur le verre, ça le rend plus résistant et si jamais il se casse en tout petits morceaux qui sont donc pas dangereux. Et puis l'autre astuce qu'on utilise, c'est que là plutôt sur le pare-brise, on fait ce qu'on appelle un verre feuilleté, c'est-à-dire c'est en fait deux feuilles de verre avec du plastique transparent au milieu. Et là, si jamais ça se casse, ça fait pas des tout petits morceaux, ça fait plutôt des grandes fissures, mais par contre ça reste en place. Le plastique qui est entre les deux maintient le verre en place, et donc ça évite que le verre vienne toucher les passagers ou les conducteurs. Et donc c'est ce qu'on appelle un verre feuilleté.
Que c'est intéressant. David Loibre évoquait tout à l'heure le verre des vitraux. Si vous aimez le verre, qui est quand même une matière complètement magique et extraordinaire, vous pouvez aller dans l'Oise, visiter. Il y a des journées portes ouvertes, je sais pas quand, mais je vous le dirai quand ce sera le moment. Les usines Albertini, ils vendent des dalles de verre, les dalles avec lesquelles on fait les vitraux, de toutes les couleurs, mais c'est extraordinaire. C'est à Montigny-les-Cormeilles. J'en suis pas sûre, mais presque. Je vous en reparlerai. Dans Les Petits Bateaux ce soir, vous avez demandé comment on forme les onomatopées. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes dans toutes les langues, c'est curieux. Si les bébés naissaient plus la nuit que le jour, et quelle est la différence entre le kayak et le canoë? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir d'où viennent les cernes. Merci de me répondre.
Docteur Nina Ross, d'où viennent les cernes ? Demande Amélia. J'ai oublié de dire que vous étiez bien évidemment dermatologue et que vous avez écrit des livres sur la peau chez Solar et chez First, entre autres.
Bonjour Amélia. C'est une question qu'on me pose souvent en consultation. Et pour te répondre, il faudrait qu'on définisse déjà ce qu'on appelle les cernes. Par cerne, on entend en fait un petit défaut de la peau qui est au niveau de la paupière inférieure. Mais ça peut être un creux, on parle de cernes creux. Ça peut être des poches, c'est beaucoup plus fréquent. Mais ça peut être aussi la coloration, violacée ou pigmentée de brun. Et cette paupière inférieure, elle a des particularités. La première de ces particularités, c'est que c'est une peau qui est extrêmement fine. Donc par transparence, quelle que soit la couleur de la peau, on a tendance à voir les petits vaisseaux qui passent en dessous. Donc là, on va parler de cernes violacées. On voit des petites veines, comme on pourrait avoir des varicosités sur les jambes, on en a assez fréquemment autour de l'œil. Cette peau, elle a aussi tendance à pigmenter facilement, soit de façon spontanée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des différences de teinte d'une zone à l'autre du visage, soit sous l'effet du soleil, soit parce qu'on a eu des irritations ou de l'eczéma à cet endroit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cernes pigmentaires. Il y a les cernes vasculaires qui vont être violettes. Évidemment, ça ne se traite pas de la même façon. Et puis, il y a les cernes qui sont liées au relief. Le cas le plus fréquent, c'est les poches. En fait, la paroi de notre paupière inférieure, elle n'est pas très musclée. Donc, elle a tendance, au fil des années, à se relâcher un peu comme un ventre qui se relâche. Et on a des petits paquets de graisse qui vont devenir un peu proéminents, exactement comme un ventre relâché. Et puis, chez certaines personnes qui sont en général un petit peu plus jeunes, on peut avoir des cernes creusées. Ça, c'est pas fréquent, mais on a l'impression de voir un peu l'os de l'orbite, ce qu'on appelle le rebord orbitaire. On dit que le tour de l'œil est un petit peu squelettisé.
Et le manque de sommeil rentre dans quelle catégorie ?
Le manque de sommeil, il gêne le drainage lymphatique. Donc, on va avoir tendance à avoir des cernes un petit peu engorgées d'eau et avec un drainage vasculaire qui est plus paresseux. Donc, c'est plus dans la catégorie cernes vasculaires.
J'ai crevé l'oreille. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, vertige de l'amour. il y a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place.
Vertige de l'amour, c'était Alain Bachung, bien sûr, qui est mort en 2009. Et oui, déjà, il est mort à Paris, où il était né d'ailleurs. Alain Bachung est enterré au Père Lachaise.
Les petits bateaux sur France Inter.
Alors, les petits bateaux, vous connaissez le principe. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Boniface, j'ai 10 ans et demi et je voudrais savoir la différence entre les canoës kayaks et les kayaks. Parce que j'arrive jamais à comprendre. Et bonne soirée.
Bonne soirée à toi, Boniface, et merci pour cette question. Alors, nous avons trouvé quelqu'un pour te répondre. Sébastien Tester, vous êtes conseiller technique sportif à la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie. La différence entre le canoë-kayak et le kayak.
Eh bien, bonjour, bonjour à toi Boniface. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question, c'est une question qu'on nous pose souvent, la différence entre le canoë-kayak, qu'est-ce que c'est? Pour être assez précis, en fait, il faut savoir déjà, civilisations antiques utilisaient les embarcations avec un système de pagaies pour se déplacer, pour chasser. Donc on va parler des Égyptiens, des peuplades africaines et des peuplades asiatiques, par exemple. Le canoë-kayak est un terme générique qui reprend en fait l'ensemble des activités, et c'est apparu autour du XXe siècle.
Mais ça n'existe pas s'il n'y a pas de bateau qui s'appelle canoë et kayak. C'est deux trucs différents.
Exactement, c'est bien différent. Le canoë et le kayak sont deux embarcations différentes avec deux origines différentes. Je vais commencer par le canoë. Le canoë, en fait, il est issu des peuplades amérindiennes, des indiens d'Amérique du Nord. C'était un bateau qui était utilisé pour aller transporter soit de la marchandise, soit des personnes.
On est installé comment dans un canoë?
Dans un canoë, en fait, on est assis ou à genoux et on utilise une pagaie simple. C'est-à-dire que la pagaie, elle est composée d'une pale, d'un manche et d'une poignée qu'on appelle l'olive. On est sur une pagaie simple.
Et c'est le gars qui rame ou la fille qui change de côté.
Effectivement, on change de côté quand on a besoin de pagayer. Souvent, en canoë, on est souvent à deux, voire un peu plus. On peut avoir des canoës à une place, mais vraiment, la différence entre le kayak et le canoë, c'est qu'on a une pagaie simple.
Donc, pagaie simple, canoë.
Voilà. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler un peu de la matière dont a été fait ces bateaux à l'époque. C'était des bateaux qui étaient faits en écorce de bouleau.
Waouh, voilà. Légère.
Très légère, très fragile, mais ça permettait en fait à ces peuplades de pouvoir aller se déplacer dans les territoires amérindiens. On a aussi les trappeurs qui ont beaucoup utilisé ces embarcations pour aller vendre, par exemple, la peau de leur chasse l'hiver, par exemple, ils allaient dans les villages.
Donc ça, c'est le canoë. Est-ce que le fait que ce soit si légère, ça veut dire qu'éventuellement, on peut le sortir de l'eau?
Tout à fait. En fait, le bateau, si on peut le sortir de l'eau, et notamment sur des rivières au Canada, par exemple, il y a beaucoup de portages, et il est courant, en fait, de porter son canoë pour passer d'une rivière à une autre avec facilité. Donc voilà, il y a toute la dimension du trappeur derrière le canoë.
Et le kayak?
Alors le kayak, en fait, lui, le kayak, il a pris son essence au niveau des peuplades esquimaux, ou les Inuits, hein, on peut parler d'origine au niveau des Inuits. Cette embarcation, en fait, elle était constituée à l'époque en ossature avec des os de baleine.
Non.
Recouverts de peau de phoque.
Wow.
Et cette embarcation permettait aux Esquimaux, en fait, de pouvoir aller chasser en mer et pouvoir après nourrir leur famille en revenant de leur session de pêche.
Alors, on est installé comment dans un kayak?
Dans un kayak, en fait, on est assis, les jambes allongées. En fait, on va venir se caler sur le pont du kayak, les fesses bien calées dans un siège. Et on a des cale-pieds qui nous permettent de transmettre l'énergie de l'appui qu'on crée dans l'eau avec la pagaie pour avancer.
Et vous avez combien de personnes dedans, à peu près?
Alors, le kayak, en fait, on peut avoir entre une place, une personne, des kayaks biplaces, voire des kayaks triplaces, voire des kayaks six places.
Et on pagaie avec quoi? Avec quel instrument?
On pagaie avec cette fois-ci une pagaie, ce qu'on appelle double, donc qui est composée d'un manche et de deux pales.
Pour pratiquer le canoë comme le kayak, il faut une eau très calme?
Pas forcément, en fait. On peut utiliser ces embarcations sur tout type de milieu, à savoir l'eau calme, la mer, l'eau vive.
Qu'est-ce qui va le plus vite, le canoë ou le kayak? Ça dépend du nombre de gars.
Ça dépend du nombre de personnes. En général, les bateaux les plus rapides dans notre famille, ce sont les kayaks à 4 places en sprint, et on peut aller jusqu'à 25 km/h. Quand on a des athlètes qui sont bien en forme et qui pagaient bien en simultané, on peut vraiment atteindre des sprints à plus de 25 km/h. Et d'ailleurs, il y a un petit concours en interne qui existe où on s'amuse à tirer en fait un skieur nautique.
Wow.
Avec un kayak à 4 places.
Ah oui, ça c'est impressionnant. Ça c'est génial. Dernière question, un peu de mère, on peut commencer à quel âge? De mère, maman, on peut commencer à quel âge?
On peut commencer à partir du moment où on sait nager. Voilà, on peut commencer à partir du moment où on sait nager, donc ça peut être 7 ans. La fédération développe aujourd'hui une activité avec le baby kayak, où on fait une activité de découverte vraiment en milieu calme, en piscine, donc on peut commencer plus jeune. Mais vraiment, pour commencer à être autonome et pouvoir se déplacer et s'inscrire dans un club, il faut savoir nager.
Merci, merci beaucoup Sébastien Tester. Alors écoutez bien, la Fédération de canoë-kayak et des sports de pagaie organise une grande fête, c'est le week-end prochain, les 9 et 10 octobre, sur le site de Vers-sur-Marne, qui accueillera d'ailleurs les JO en 2024. Vous pourrez essayer donc plusieurs types d'embarcations, le raft, le stand-up, le paddle, avec notamment des baptêmes de descente en eau vive. Et surtout le dimanche, vous pourrez vous inscrire pour faire une traversée de 11 km sur la Marne. Il faudra juste avoir 8 ans. Le samedi, il y aura une grande fête avec un concert et feu d'artifice. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Vous pourrez trouver ces infos et plus encore sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Balthazar, j'ai 8 ans. Et est-ce que les bébés naissent souvent la nuit? Et si oui, pourquoi? Merci.
Bonsoir Balthazar et merci pour ta question bien formulée. Chantal Birman, sage-femme. Alors Balthazar demande si les bébés naissent souvent la nuit et si oui, pourquoi?
Alors, on peut dire que dans l'accouchement spontané, c'est-à-dire quand on laisse les femmes accoucher, qu'on ne les déclenche pas, ce qui est de moins en moins quand même, c'est-à-dire que les raisons de déclenchement sont de plus en plus importantes actuellement, eh bien, dans ce cas-là, il est vrai qu'il est fréquent que les contractions des mamans se passent souvent la nuit. Pourquoi? Ben probablement, comme c'est un rendez-vous, l'accouchement entre la maman et le bébé, c'est un rendez-vous qui est aussi hormonal. Il y a peut-être plus la possibilité de s'écouter, d'écouter l'autre, et quelque chose qui est offert à l'autre de sortir s'il en a envie.
Ah, j'aime cette formulation, c'est un rendez-vous entre la maman et le bébé.
Un accouchement, c'est un rendez-vous, oui, entre la maman et le bébé.
Pour une sortie.
C'est une sortie, et c'est aussi une séparation. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation non douloureuse. Ça n'existe pas. Même quand tu es avec quelqu'un qui t'a bien embêté pendant des années, que tu te sépares et que tu es bien clair pour te séparer, ça reste douloureux. Alors un bébé, t'as rien fait. Donc évidemment que c'est douloureux.
Cette histoire de séparation, dis donc, de rendez-vous, de séparation, donc il n'y a pas d'accouchement qui ne soit pas un chamboulement.
Un accouchement, c'est aussi le moment où on change de génération. Donc pour une femme, elle va être obligée de passer derrière son bébé et de laisser le bébé sur la première génération. Et le passage de ce bébé sur cette première génération, alors que c'était elle qui était dans la première génération.
C'était elle le bébé.
Il va falloir qu'elle se mette derrière. Quand tu te mets derrière quelqu'un et que tu lâches une position pareille dans la vie, tu meurs un peu. Dans l'accouchement, on rencontre des choses qui sont de l'ordre de la mort et bien sûr des choses qui sont de l'ordre de la vie. Mais on meurt un peu dans un accouchement. Oui, c'est vrai.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti,
eso es.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Y yo lo hice por ti.
Por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti.
¿Para qué me
quieres? Y yo lo hice por ti.
¿Para qué me quieres?
Yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido?
Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Porque me quiera.
Lo hice por ti.
C'est beau, hein? Anton Alvarez Alfaro dit Tangana, c'est un rappeur madrilène, c'est un des artistes espagnols les plus écoutés au monde. À propos d'écouter, vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 10 ans et je voudrais savoir comment on forme les onomatopées. Merci, au revoir.
Hey, bonsoir Agathe, tu parles bien. Et c'est vrai que c'est amusant cette question des onomatopées. Isabelle Cloque-Fontani, professeure des sciences du langage à l'Université de Limoges. Vous êtes spécialiste des langues et des écritures anciennes, en particulier de celles du Proche-Orient. C'est amusant cette histoire d'onomatopée dont parle Agathe. Comment ça se forme ?
Une onomatopée est un mot qui est censé imiter un son, hein, un bruit fait par un objet, un animal. Donc, mon chat est censé faire miaou. Une branche que je craque, craque. Ça fait badaboum hein, quand on tombe. Ouais. Le canard fait coin-coin. Mais je viens de dire est censé imiter. Pourquoi ? Vous remarquerez que bien que tout le monde entende exactement les mêmes bruits, hein, le chat miaule de la même manière dans tous les pays, bah, la transcription des onomatopées varie selon les langues. Hein, l'exemple du coq est bien connu. Notre coq fait cocorico, hein, en allemand il fait kikeriki, en croate kukuriku, en danois kikliki, bon,
c'est
etc.,
drôle,
etc.
C'est drôle ça.
Eh oui. En fait, les onomatopées essayent de reproduire ce que l'oreille a perçu. Donc, coucou imite le bruit du coucou. Caqueter imite le caquetage des poules. Mais s'il y a des différences entre les langues, c'est parce qu'en fait, on les interprète, ces bruits. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'on essaye de rendre par une onomatopée un son extérieur, on le traduit en notre langage. Et en fait, il y a même une double traduction. Non seulement nos organes émetteurs, notre voix, traduit à sa manière les données que fournit l'oreille, mais déjà l'oreille avait interprété, évidemment, le bruit qu'elle avait entendu. Donc ce qui fait que les onomatopées ne sont pas des onomatopées. Ah, mais les onomatopées, ce ne sont pas seulement des interjections, c'est pas seulement crac, badaboum, boum boum. Voilà, on a plein de mots dans notre langue, des noms, des verbes, des adjectifs qui ont une base d'onomatopées.
Par exemple,
tous les mots qui commencent par creux, ça renvoie à tout ce qui fend ou éclate. Par exemple, le bois, hein, crépiter, craquer. Et du coup, ça renvoie même à la voix, criailler. Hein. Donc tout ce qui commence par creux, c'est à la base une onomatopée. On essaye d'imiter ce bruit. Et c'est pour ça que souvent, il y a des redoublements. J'ai dit caqueter, j'ai dit coucou. C'est parce qu'en fait, on essaye vraiment d'imiter. Hein. Le coucou, il fait pas coup. C'est un bruit qui se répète. Comment se forment les onomatopées? C'est souvent par redoublement. Hein. La chouette, elle ulule. La poule, elle caquette. La caille, elle cacabe. Le canard, cancane. Hein. La cigale, craquette. Le coq, coquerique. La fauvette, zinzinule, etc. Non. Ce sont toujours des redoublements parce que le son, eh bien, il se répète. Et pensez à un mot comme barbare. Vous me direz, mais c'est pas une onomatopée, mais qu'est-ce qu'un barbare? C'est un mot qui vient du grec. Et en fait, c'est une onomatopée qui est...
Barbe.
Non, qui imite les borborygmes de ceux qui ne parlent pas grec. Donc, ils ne parlent pas, ils ne prononcent pas des mots, mais juste des balbutiements et des borborygmes. Donc, tout ce qui est avec ba, ça imite le balbutiement, l'incohérence. Pensez au français être baba. Oui, c'est vraiment la bouche grande ouverte.
C'est ce que je fais, moi.
Ben voilà, être baba.
Je vous écoute, la bouche ouverte.
Voilà, mais c'est ça.
Dit-on aïe dans toutes les langues? Je cherchais un ouvrage sur le harcèlement scolaire. Le sujet est à la mode, hélas. Je dis hélas, car si c'est bien qu'on s'en préoccupe, c'est surtout triste qu'il existe. Je suis perplexe quand on dit à un harcelé « défends-toi ». S'il savait se défendre, ce n'est pas lui qui aurait été choisi. C'est précisément parce qu'il ne peut pas se défendre qu'il est harcelé. Demander à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas, non seulement ne l'aide pas, mais renforce un peu plus le désarroi, son désarroi, et sa solitude. J'ai pensé que ce livre, L'hyper-empathie d'Anne Landry, édité chez Guy Trédaniel, pouvait aider certains parents, ados ou bien jeunes adultes. Les hyper-empathiques sont perçus comme instables, susceptibles, écorchés vifs, colériques, excessifs et fragiles. En fait, ce sont des buvards qui captent les émotions des autres sans savoir les distinguer des leurs. Ce livre apprend comment identifier les émotions qui ne sont pas les nôtres, comment se faire confiance, comment ne plus douter de ce que l'on ressent. Et c'est peut-être un premier pas pour arriver à se connaître, s'accepter, s'apprécier et se défendre enfin. L'hyper-empathie d'Anne Landry est édité chez Trédaniel. Podcastez, réécoutez ces petits bateaux et venez sur notre site par franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Benjamin Troncin, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin et Un masque et la plume consacrés ce soir au théâtre.